France Musique.
Quel scandale! Shostakovich au pilori. Le traître, le salaud, au biodoc, bâtard, mais comment la presse a-t-elle pu encenser une telle ordure? Moudak, Mourechnik, escroc, Shostakovich. Ça, un opéra? Du bruit, oui, des obscénités, voilà ce que c'est. Et puis cet orgasme sur scène, mais qu'est-ce qui lui a pris à ce Shostakovich? Dégénérate, dégénéré. Moscou, 26 janvier 1936. Staline quitte la loge officielle du théâtre Bolchoï avec fracas pour bien marquer sa désapprobation. Jdanov, Molotov et Mikoyan sur les talons. Les colères de Staline sont glaçantes. Il n'aimerait pas être à la place de Shostakovich. Le dernier acte de Lady Macbeth de Mzensk n'est pas terminé, mais ça suffit. Il en a déjà trop vu, trop entendu. Ah, pour être réaliste, ça l'est, oui. Déjà, à l'entracte, il n'a pas convoqué le compositeur dans sa loge. Comme il a eu raison. Et maintenant, c'est un coït, un orgasme simulé sur scène. Quelle obscénité! Et appuyé par des cuivres stridents. Shostakovich est complètement fou. Tout cela est bien pire que ce qu'il avait imaginé et bien au-delà de ce que les rumeurs colportent depuis des semaines. Oui, Shostakovich est un dégénérate. Il va falloir le mettre au pas, car ce n'est décidément pas la ligne du parti. Dimitri Shostakovich a-t-il vu venir l'affaire? A-t-il senti une quelconque menace sur son opéra quand il a su que Staline venait l'entendre ce soir-là? Son sort n'était-il pas déjà scellé avant même que le chef de l'État ne se rende au théâtre ce fameux soir? Quoi qu'il en soit, la suite ne s'est pas fait attendre. Deux jours plus tard, le 28 janvier, le couperet tombe et on peut lire dans la Pravda, organe officiel du pouvoir, que Lady Macbeth de Mzensk de Shostakovich est un galimatia musical. Le chaos remplace la musique. Un lambeau de mélodie, une ébauche de phrases musicales se noie dans la masse, s'échappe, se perd à nouveau dans le tatamar, les grincements, les glapissements. Il est difficile de suivre cette musique. Il est impossible de la mémoriser. Sur scène, le chant est supplanté par des cris. C'est le bruit musical qui est appelé à exprimer la passion. Il s'agit d'un chaos gauchiste remplaçant une musique naturelle, humaine. On murmure que Staline en personne a commandé l'article et qu'il en a dicté les mots-clés à un certain Zaslavski, un exécuteur des basses œuvres du régime concernant les choses artistiques. Thank you. Shostakovitch vient d'être littéralement assassiné. Lui et son deuxième opéra aussitôt retiré de l'affiche. Pourtant, ce n'est que le début d'une longue campagne de mobilisation de l'opinion contre lui. En un seul soir, il est devenu ennemi du peuple. Il a 29 ans. Ce scandale de 1936 est étrange en vérité. Il semble avoir été préparé, organisé, volontaire. Un scandale à retardement en quelque sorte. Car cet article de la Pravda, qui condamne Shostakovitch et son opéra, intervient 2 ans après la création de celui-ci. 2 ans ! La première du 22 janvier 1934, au théâtre Mali de Leningrad, fut un véritable triomphe public et critique. Les spectateurs ont applaudi à tout rompre. Et la suite a été une bénédiction aussi. Le surlendemain, c'est Moscou qui a accueilli l'opéra. Dans une atmosphère de surexcitation, nouvelle victoire! En 1934, en l'espace de quelques mois, Lady Macbeth de Mzensk a été donnée 80 fois à Leningrad et presque 100 fois à Moscou. Et sa réputation a dépassé les frontières. L'opéra a été programmé à Stockholm, Cleveland, Philadelphie et même à New York, au fameux Metropolitan Opera. Alors, qu'on ne vienne pas dire à Shostakovitch que son opéra n'est pas digne d'être représenté, que sa musique n'est pas de la musique. Mais c'est le parti qui décide de tout. Ce qui est certain, c'est que l'article de la Pravda a tout d'une mise à mort. Pas sûr que le musicien s'en relève. Six ans plus tôt, en 1930, Dmitri Dmitrievitch Shostakovitch a créé son premier opéra, Le Nez. Une farce surréaliste, inspirée d'une nouvelle de Gogol, qui lui avait déjà valu quelques déboires. On l'avait alors accusé d'avoir écrit une œuvre où le chant s'apparentait au glapissement, où l'orchestre, ruant dans les brancards, dans un collage de styles, de sons et de tons corrosifs, poussait loin. Oui, Ce nez avait profondément dérangé et le public n'avait pas compris cette musique si moderne. Chostakovitch le sait. Pour autant, c'est comme ça qu'il avait ressenti cette fable satirique. L'association russe des musiciens prolétaires lui avait manifesté son hostilité et avait tout fait pour torpiller l'opéra. Mais Chostakovitch et le Mali de Leningrad avaient tenu bon et le 18 janvier 1930, le nez avait fait une entrée fracassante au répertoire. C'est donc avec cette première expérience que, 9 mois plus tard, le 14 octobre 1930, Chostakovitch s'attelle à un nouveau projet basé sur une nouvelle de Nikolaï Leskov, peintre des mœurs et de la vie russe, une certaine Lady Macbeth du district de Mzensk. Il l'adapte en livret d'opéra avec l'aide d'Alexandre Price, son collaborateur déjà pour le nez. Ce qui ne l'empêche pas de composer en même temps des musiques de films, des mélodies, des symphonies. Il faut dire que Chostakovitch possède une force de travail hors du commun. Deux ans lui suffisent pour composer sa Lady Macbeth, qui est fin prête le 17 décembre 1932. En 1932, en URSS, le climat bénéficie encore du bouillonnement culturel de la décennie précédente. Le public a soif de nouveautés et l'Union des compositeurs soviétiques, créée par le Comité central, n'a pas encore commencé à exercer son contrôle totalitaire sur la culture. Autant en profiter, nul ne sait à quoi demain ressemblera. Et lorsque Chostakovitch a joué au piano le dernier acte de son opéra devant Andrei Boubnov, un ancien leader bolchevique de la révolution de 17, devenu commissaire du peuple à l'instruction, non seulement personne n'a rien trouvé à redire, mais on l'a même encouragé. « Faites jouer votre opéra, Dimitri Dimitrievitch, le peuple appréciera. Que le succès vous accompagne. » Mais tout ça, c'était avant le Bolchoï et Staline. Lady Macbeth est un opéra cru, violent et réaliste. Si le nez jouait la carte de tous les excès de la satire criarde, baignant dans un climat hystérique, Lady Macbeth du district de Mzensk dépeint une héroïne et des personnages dans un univers rural auquel le public peut s'identifier facilement. La détresse psychologique et sexuelle de Katerina Ismailova, la veulerie et l'impuissance de son époux, la tyrannie de son beau-père, l'expression de son désir, de son amour et sa relation passionnée avec son amant Sergueï, puis la trahison de celui-ci, sans oublier ses meurtres jusqu'à son suicide final, toutes ces douleurs sont peintes et portées par une musique paroxystique à la limite de l'insoutenable, où le lyrisme exacerbé le dispute à la critique sociale avec cuivres hurlants et violons en feu. J'ai voulu faire une tragédie satirique, explique Shostakovich. Et j'ai cherché à montrer, sous cet éclairage sobrement satirique, tout l'univers à l'intérieur duquel vit Katerina. Pour moi, le mot satire ne signifie nullement drôle, rigolo. Au contraire, j'ai cherché dans Lady Macbeth à réaliser une satire dénonciatrice, à arracher les masques et provoquer la haine envers les mentalités des riches marchands russes, avec leur esprit tyrannique et leur mépris de l'humain. Fin de citation. Dans ce monde-là, Katerina Ismailova, alias Lady Macbeth de Mzensk, est seule à pouvoir éprouver un sentiment sincère et profond, l'amour. Elle est, dit Shostakovich, un rayon de lumière au milieu d'un monde de ténèbres, toute meurtrière qu'elle soit. Le public soviétique l'a acclamée, cette Lady Macbeth, pendant 2 ans. Alors que s'est-il passé ? Il s'est passé qu'en 2 ans, le climat politique s'est durci. La terreur imposée par Staline s'est abattue sur l'Union soviétique et l'opéra socialement engagé de Shostakovich en a fait les frais. Oui, ce 26 janvier 1936, Staline, 58 ans, assistant à la 3e production de Lady Macbeth dirigée par Alexander Melik Pachaïev au Bolchoï en compagnie de Jdanov, Molotov et Mikoyan, condamne définitivement l'œuvre de Shostakovich. Et qu'importe si le public soviétique l'a fêté jusque-là. Le public soviétique s'est trompé, il a fait fausse route, c'est tout. D'ailleurs, si l'Occident a acclamé Lady Macbeth, c'est bien la preuve que cet ouvrage est perverti et qu'il est temps d'y mettre fin. C'est ainsi que dans la Pravda, le public soviétique pouvait lire ce 28 janvier 1936. L'auditeur de cet opéra se trouve d'emblée étourdi par un flot de sons intentionnellement discordants et confus. La faculté qu'a la bonne musique de captiver les masses est sacrifiée sur l'autel des vains labeurs du formalisme petit bourgeois où l'on fait l'original en pensant créer l'originalité, où l'on joue à l'hermétisme. Tout cela est grossier, primitif, vulgaire. La musique glousse, vrombit, halète, souffle, pour représenter avec réalisme les scènes d'amour. L'œuvre est toute barbouillée d'amour sous sa forme la plus vulgaire. Le compositeur ne s'est manifestement pas fixé pour tâche de donner ce que le public soviétique attend et cherche dans la musique. Il est passé à côté de ce qu'exige la culture soviétique. Chasser la grossièreté et la barbarie partout dans la vie soviétique. Nos théâtres ont beaucoup fait pour réaliser soigneusement l'opéra de Chostakovitch. Les acteurs ont déployé bien du talent pour surmonter les bruits, les cris, les grincements de l'orchestre. Par la richesse de leur jeu, ils ont tenté de compenser l'indigence mélodique de l'œuvre. Malheureusement, celle-ci n'en dévoile que mieux ses traits grossièrement naturalistes. Le talent des artistes mérite reconnaissance et les efforts déployés, la commisération. . 1936 est donc l'année où commencent les grandes purges staliniennes. Toutefois, si Lady Macbeth de Mzensk est immédiatement retirée de l'affiche, le régime n'en a pas fini pour autant avec Chostakovitch. Un autre article, quelques jours plus tard, attaque son ballet Le Clair Ruisseau. Un ballet qui sonne faux, écrit-on. Et ce n'est encore qu'un avant-goût de l'obscurantisme totalitaire qui va déferler 11 ans plus tard avec le manifeste de Jdanov. Lady Macbeth est bel et bien enterrée. Dimitri Dimitrievitch, ennemi du peuple, voit déjà sa carrière lyrique brisée. Et sa vie ne tient maintenant plus qu'à un fil. On ne lui pardonnera pas un deuxième écart. Pétrifié, poursuivi par la censure et la terreur, constamment à deux doigts du goulag et de l'exécution, il achève quelques mois plus tard sa 5e symphonie et accepte, sans nul autre choix, que le pouvoir stalinien sous-titre son nouvel opus, réponse d'un artiste à de justes critiques. Pétrifié, oui. Shostakovitch dort tout habillé, sa valise toujours prête sous son lit, au cas où on viendrait le chercher. Tant de militaires, de généraux, d'intellectuels ont disparu. S'il me coupe les deux mains, je tiendrai ma plume entre les dents et je continuerai à écrire de la musique, dit-il. A-t-il fait amende honorable? Succombé à une œuvre de propagande? Non. Il a simplement cherché à sauver sa peau, toute sa vie. Son angoisse et sa terreur sont là, disséminées dans ses partitions, au milieu des chants de triomphe. Contrairement à tant d'autres, Shostakovitch ne sera jamais arrêté ni déporté. Un vrai miracle. Lady Macbeth de Mzensk ne sera rejouée à Moscou que 30 ans après sa création et dans une version édulcorée sous le nom de son héroïne, Katerina Ismailova. Cette recréation a lieu en 1962, 9 ans après la mort de Staline en 1953. Pourtant, c'est encore aujourd'hui la version originale de Lady Macbeth de Mzensk qui est la plus souvent jouée.
France Musique. Quel scandale, Jérémy Rousseau.
Shostakovitch au pilori, mais ici au zénith, entre son enfer et son paradis.
bella comma, picciu bella persona.
Nous avons entendu des extraits de Lady Macbeth d'Omzensk, de la 8e symphonie et du 2e concerto pour piano de Dimitri Chostakovitch. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr. C'était « Quel scandale !» Aujourd'hui, Chostakovitch au pilori. Une émission de Jérémy Rousseau, réalisée par Claire Lagarde et préparée par Marion Guillemet, avec la collaboration de Laure-Hélène Dufournier. prise de son et mixage, Stéphane Touvenin et Manon Houssin. Quel scandale est à réécouter et à podcaster sur francemusique.fr. Au programme demain, baston à Bayreuth.
À réécouter sur francemusique.fr.